que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Je vous invite à louer Dieu ce matin, à louer un seul nom, Jésus, celui au-dessus de tous les noms. On va proclamer son nom ce matin ensemble.
Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux.
Sur le nom de Jésus, sur le rocher. Alléluia.
chanterai. Digne de la louange que j'élèverai. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms, tu es le seul. Jésus, tu es le seul, offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Tu es très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Jésus, au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Tu es très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. À ta beauté, déverse ton
Il y a plus de 2000 ans de ça, quelqu'un s'est donné corps sur la croix. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu, le Créateur de l'univers, le Maître, le Roi des Rois, a tellement aimé le monde. » Alors pas le monde matériel par les arbres, mais a aimé chacun d'entre nous. Qu'il a donné son fils unique, ce qu'il avait de plus cher, sa richesse. Il s'est sacrifié à la croix, non pas parce qu'on a fait quelque chose de bien, mais parce qu'on a péché, on a désobéi, et parce qu'on était complètement séparés de lui. Et ce matin, on va prendre ces symboles. Et je vous demanderai de ne pas le faire par habitude, pas pour accomplir un rituel, mais se rappeler qu'à la croix, il a tout payé et qu'il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Seigneur, encore merci. Merci même si ça date, ça a autant de valeur aujourd'hui, ce sacrifice à la croix, cet acte d'amour pour nous, Seigneur, pour nous qui sommes pécheurs, pour nous qui parfois nous détournons de toi. Tu l'as fait par amour pour nous sauver parce que, Seigneur, tu savais qu'on en avait besoin plus que tout. Merci pour ce sang versé. Merci d'avoir tout accompli. Merci vraiment pour ce sacrifice à la croix. Et oui, encore ce matin, je prends ces symboles, non pas par habitude, mais vraiment pour réaliser, Seigneur, que cet acte d'amour, tu l'as fait pour moi aussi. Seigneur, parce que tu m'aimais, parce que tu m'aimes. Alors vraiment, à toi soit toute la gloire. Amen.
Ce chant consécration. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur, Seigneur. Alléluia. Fais ta volonté. Je t'en prie, mon Dieu, pardonne-moi. À côté de le louer ce matin. Tu viens de chanter « Fais ce que tu veux dans ma vie ». Alléluia. Alors ne passe pas à côté de le louer. Ne passe pas à côté de lui faire, de lui laisser toute la place, de lui laisser faire tout ce qu'il veut. Car il a des grandes choses pour toi.
Je voudrais soumettre à l'Église une pensée qui me semble venir du Seigneur. Et pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, je précise que nous sommes une Église, comme d'autres Églises d'ailleurs, qui croyons que Dieu parle encore aujourd'hui, alors que ce soit à travers sa parole ou par le canal humain.
Mais cette parole peut percuter nos cœurs. Seigneur, je te prie vraiment pour que ces paroles que tu nous permets d'entendre, elles puissent résonner dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, qu'on puisse être attentifs et ne pas oublier, mais ancrer en nos cœurs ces paroles qui viennent de toi, mon Dieu. Amen.
Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Tu veux pour ta gloire, alléluia.
Te rends.
même si nous on le voit pas, toi tu es là, présent, présent avec nous. Merci parce que tu ne nous délaisses jamais. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. On veut te rendre gloire encore, Seigneur, ce matin pour cela. Oui, Saint-Esprit, conduis-nous encore, Jésus.
Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'amènes. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur.
Est-ce que tous ensemble on peut élever la voix encore et remercier Dieu, dire oui, je t'appartiens. Oui Seigneur, je me donne complètement à toi et c'est vrai que parfois ça peut être flippant Seigneur mon Dieu, mais oui je veux. Seigneur mon Dieu que Seigneur tu augmentes, Seigneur tu permettes d'élargir Seigneur ma foi. Seigneur de nous conduire là où peut-être on ne veut pas Seigneur mon Dieu, mais Seigneur là où on peut être une source de bénédiction. Seigneur, tu connais nos faiblesses. Seigneur, tu connais nos craintes. Mais Père, on veut te faire confiance pleinement et te dire, Père, encore agis. Agis en nous, Seigneur, et que nous puissions vivre, Seigneur mon Dieu, cette foi. Seigneur mon Dieu, qui dit oui, Seigneur, me voici. Envoie-moi, conduis-moi, dirige-moi là où tu veux que je sois une source de bénédiction, là où je pourrais être ton témoin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Dieu en l'acclamant encore ce matin? Dimanche après dimanche, on vous dit qu'on peut vivre l'Église, ok le dimanche matin, mais aussi durant toute la semaine, durant tous les jours, durant toute notre vie, du moment où on se lève au moment où on se couche. Et il y a un autre moyen de vivre l'Église aussi, de bénir, c'est d'aller précommander des NEM, d'accord, pour inviter des personnes, quand vous irez les chercher le 18 mai, et leur parler de Jésus. Autour de la nourriture, ça marche toujours. Ça marche toujours. Et le 18 mai, il y aura aussi des ventes de gâteaux, des ventes des objets que les Aiguilles Solidaires font. Il y a plein de trucs. Moi, je les vois le lundi. Ce qu'elles font, c'est juste, vraiment, c'est beau. J'aimerais avoir leur don, je ne l'ai pas. Mais peut-être un jour, j'apprendrai. Donc le 18 mai, n'oubliez pas, il y a la vente de NEM. Aujourd'hui, c'est la pré-vente, mais vous récupérez le 18 mai les NEM. Il y aura des ventes de gâteaux confectionnées par nos ados et par nos jeunes. On peut les applaudir, les encourager. Là aussi, il y a des dons et des qualités. J'espère qu'ils vont le faire parce que je suis en train de vendre quelque chose avant d'avoir tué le... Enfin, voilà. Enfin, bref. On continue aussi. Une manière de pouvoir louer Dieu, c'est la marche pour Jésus, le samedi 24 mai.
manifester qu'il y a un Jésus, qu'il y a Jésus qui existe, qui est vivant, qui est fort, qui est puissant. Donc le rendez-vous, c'est à 13h30 au Parlement européen. Venez le plus nombreux possible pour témoigner de l'amour de Jésus. Amen, Amen. Et on continue, un temps fort, début juin. Ouais, jeûne et prière. Alors là, on mange pas, il n'y a pas de nem. Mais on est avec le Seigneur, dans la présence du Seigneur. Du 2 au 4 juin à 19h30, ici même, c'est là une pause à l'écoute des psaumes. Un temps à part. Alors venez aussi, venez avec les enfants. Vous pouvez les faire manger par contre les enfants, je tiens à préciser quand même. Mais venez aussi avec les enfants si vous le pouvez. Ils sont là, ils pourront vivre des temps aussi. Priez avec nous, ça leur apprendra à prier en famille. Amen. On va continuer cette vie d'église et on va accueillir Nathan et Marie. Je vais demander au conseil spirituel, à l'équipe pastorale de venir. On va présenter Aria qui est née le 5 août 2024. On peut les applaudir. Alors on le dit, on ne baptise pas d'enfants parce que la première des choses, c'est la responsabilité des parents d'enseigner Aria. Et c'est une grosse responsabilité. Ok, oui, dit Nathan. Et après, à un moment donné, elle fera le choix. Et j'espère qu'elle choisira Jésus, elle aussi. Elle n'est pas mignonne? On l'accueille dans la famille. Alors, je vais demander à un jeune papa. Elle est trop belle. Je vais demander à Jérôme, parce qu'il sait ce que c'est d'avoir des filles. Il en a deux, de prier pour Nathan et Marie.
C'est un merci pour le cadeau d'être papa, d'être maman, d'avoir des petites princesses, d'avoir des petits princes à la maison. Et c'est à la fois un cadeau et c'est à la fois un challenge, un défi, puis un appel que tu nous lances, Seigneur, à être des modèles, à représenter Jésus avec nos enfants, à représenter qui tu es dans notre caractère, dans notre patience, dans notre amour, mais aussi dans l'espérance que tu nous donnes. Donc je te prie pour Nathan, pour Marie, que tu puisses leur donner d'être des parents qui vont éduquer Aria selon ta parole, selon ton amour, selon ta grâce, selon ton plan pour elle, Seigneur, parce que tu as un plan pour elle et on le croit. Donc viens leur donner tout ce qu'il faut, viens bénir Aria, qu'elle puisse te rencontrer dès son plus jeune âge, qu'elle puisse expérimenter à quel point tu es la vérité, le chemin et la vie. On te le prie et on te remercie pour ta fidélité. Amen.
Bientôt, bientôt, tu pourras venir. Juste une information vite fait. Le pasteur Raymond Pierre n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il prêche à l'Assemblée de Dieu à Haguenau. Et je vous laisse. Vraiment, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes friands de savoir la suite de notre série. Je vous laisse découvrir.
Yo yo, je me lance dans un freestyle, pas du tout. Pas du tout. Pour les puristes du rap US, rap nord-américain, vous avez la référence évidemment. Seul Dieu peut me juger, un titre emblématique de Tupac. Il sort ce morceau à la sortie de prison, animé par la colère, animé par un sentiment de rejet, plongé dans des conflits avec d'autres artistes. Et à travers cette phrase, « Seul Dieu peut me juger », il justifie en quelque sorte ses choix, ses actes, et revendique sa liberté face au jugement des hommes. Cela fait aussi écho au livre des juges, pour nous, où revient à plusieurs reprises un petit verset, mais il revient plusieurs fois. Il est percutant, dérangeant, c'est un constat répété, et il dit ceci. À cette époque-là, à l'époque des juges, il n'y avait pas de roi en Israël, il n'y avait pas de figure marquante. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Je fais ce qui me plaît, seul Dieu peut me juger. Pas tout à fait. Et cette série, justement, on veut qu'elle puisse avoir l'objectif de nous aider à trouver le bon équilibre entre la grâce de Dieu et la responsabilité humaine. Ma responsabilité, votre responsabilité. Et le titre de ce matin, c'est « Quand Dieu nous appelle tous et toutes ». Dans le premier message de la série, Jérôme nous a rappelé le vrai problème pour Dieu qu'il met à la lumière dans le livre des juges. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce qu'on pourrait croire, Dieu ne met pas d'abord l'accent premièrement sur les juges, mais il met l'accent sur les compromis. Les compromis. Des petits compromis au départ, et qui peu à peu creusent une vraie séparation avec Dieu. Et cette séparation, elle va entraîner des conséquences aussi bien dans la vie, le bien-être des croyants, mais aussi à plusieurs niveaux de la société. Et plusieurs commentateurs vont parler, en parlant du livre des juges, du cycle vicieux des juges. Les auteurs du livre des juges le rédigent de manière à ce que les générations suivantes prennent conscience qu'elles seront tôt ou tard face à l'existence d'un cycle spirituel. Et voilà ce cycle. Désobéissance, séparation avec Dieu, emmène à des luttes intérieures, des oppressions, des combats, qui normalement doivent emmener à se poser des vraies questions essentielles, fondamentales, qui nous emmènent à une repentance, c'est-à-dire un demi-tour à Dieu. Cette repentance nous emmène à la délivrance à la paix. Et puis, dans le cycle des juges, pendant cette période de paix, dès qu'un juge meurt, ça repart pour de la désobéissance, de la séparation avec Dieu, etc. Moralité. Il faut systématiquement la présence d'un juge pour tenir bon. Il faut systématiquement le leadership spirituel d'un juge, homme ou femme, pour tenir bon, pour vivre en paix, pour être dans le bien-être, dans le repos, et surtout pour avoir une communion stable avec Dieu. Et on en arrive à la première lecture de notre passage ce matin, Juges chapitre 4, verset 1. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après la mort d'Éhud. L'Éternel les vendit alors à Jabin, le roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera, et il habitait à Harosheth-Goïm. Et vous voyez ici, le cycle des juges reprend. Mort d'un juge, désobéissance, oppression, éloignement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre quand on s'adresse au livre des juges, quand on essaye de le méditer, c'est que cette époque des juges se déroule dans un contexte qui est très éloigné de ce que nous connaissons, nous, dans notre contexte français aujourd'hui. C'est un monde qui est marqué littéralement sur son territoire par la guerre, par la violence, par les invasions récurrentes. Le peuple vivait des réalités brutales comme, par exemple, la torture, les viols de guerre. Il y avait vraiment toute une barbarie dans cette période-là. Alors oui, aujourd'hui, notre société, aujourd'hui, elle a ses défis, clairement. Nous ne vivons pas dans le monde des bisounours, mais nous vivons dans un pays qui est un peu plus stable que celui des juges à l'époque. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on serait tenté, avec nos yeux à nous, de lire le récit des juges avec des yeux modernes, des yeux humanistes, des yeux d'aujourd'hui, et y voir un Dieu biblique sanguinaire. Alors il faut juste se rappeler qu'à cette époque, la survie, c'était le lot quotidien des gens qui vivaient là. La survie, survivre pour protéger sa vie, c'était leur style de vie. Dans ce chaos, cette barbarie, Dieu agissait pour relever, pour corriger et pour sauver. Alors certes, pas comme nous le ferions nous, pas de la manière dont nous voudrions qu'il puisse agir dans notre humanité. Et parfois même, il agit de manière à ce que nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre pourquoi, comment il agit comme ça. Dieu les vendit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il agit de cette manière-là? Mais laissez-moi nous rappeler quelque chose. Laissez-nous nous rappeler quelque chose. La nature divine de Dieu fait que ses actions sont toujours fondées sur une justice qui sera toujours plus parfaite que notre propre justice. Parce que Dieu est Dieu et nous ne le sommes pas. Juges chapitre 4, verset 3. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. Si vous ne voyez pas trop ce qu'est un char de fer, vous transposez avec des drones militaires aujourd'hui, vous trouverez le même. Hein. À cette époque, Déborah, une prophétesse, mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Alors, qui est cette juge nommée Déborah ? Premièrement, le texte nous dit que Déborah était prophétesse. Alors, il y a un commentaire ultra intéressant que j'ai trouvé dans la Bible d'études Archéo qui dit ceci. Une femme qui exerçait le don de prophétie dans l'Israël ancien, puis dans l'Église primitive, était désignée sous le nom de prophétesse. En général, elle détenait les mêmes dons et pouvoirs spirituels que ses homologues masculins. À savoir, par exemple, prêcher, enseigner, annoncer en individuel ou en public au peuple les oracles, les merveilles, l'enseignement de l'Éternel. Et lors de la Pentecôte, l'absence de distinction entre les sexes concernant les dons prophétiques sont confirmées. Alors ce ministère de prophète, les dons spirituels, la prophétie dans les prédications, toutes ces dimensions prophétiques sont toutes essentielles aujourd'hui. On y croit encore et on poursuit cela et on demande « Seigneur, continue ton œuvre prophétique au sein de l'Église et par l'Église. » Est-ce que je peux entendre un grand amen ? Amen. Le but de la vie prophétique, c'est d'aider l'Église à grandir dans sa relation avec le Saint-Esprit, à rester centrée sur sa mission, connaître et faire connaître l'amour de Jésus. Et si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur notre chaîne YouTube où on a fait toute une série sur la vie charismatique. Les dons spirituels, on a étudié Corinthiens et d'autres qui vous expliqueront un petit peu comment, en 2025, on veut vivre cette vie prophétique dans le cadre de l'église locale de l'Épi. Alors, Déborah est une prophétesse. Déborah est juge en Israël. Juge, chapitre 2, verset 16. « L'Éternel fit surgir des juges afin qu'il les délivre de ceux qui les dépouillaient. » Le livre des juges nous présente 13 juges, 12 hommes et une femme. Des parcours différents, des personnalités uniques, des missions bien distinctes, mais un seul et même appel. Dans le livre des juges et dans la Bible, le juge ne désigne pas uniquement quelqu'un qui rend des verdicts, parce que le terme hébreu shafat renvoie à l'idée de diriger, de libérer, de redresser une situation qui est de base chaotique. Et leur rôle allait au-delà de la simple victoire militaire, au-delà de juste exercer la fonction de magistrat au sens moderne que l'on entend. Les juges, avant tout, étaient des hommes et des femmes suscités par Dieu, appelés par Dieu pour accomplir des missions spécifiques en temps de crise, pour libérer. Oui, mais surtout, et ça c'est très important pour comprendre le livre des juges, surtout pour restaurer la fidélité spirituelle d'un peuple qui s'est égaré loin de son Dieu. Le ministère emmène à une réconciliation et à une communion durable avec Dieu. Leur véritable mission, c'est de ramener le peuple à une relation intime avec Dieu, une relation avec lui, avec ses valeurs et avec ses commandements. Et dans un monde où le leadership était presque exclusivement masculin, le peuple venait pourtant vers Déborah. Il venait vers lui pour qu'elle administre la justice, qu'elle exerce la sagesse et la direction pour régler les litiges, qu'ils soient juridiques ou relationnels. Il y avait même des gens, la Bible dit qu'ils montaient vers elle. C'est un signe de reconnaissance publique. Les gens se rendent vers elle. Elle avait un lieu même identifié d'autorité. Elle avait un palmier qui portait son nom. C'est quand même incroyable ça, non ? Moi, à La Réunion, je pense qu'aussi un jour, j'aurai un palier qui porte mon nom. C'est un peu sa salle d'audience. Déborah était une conseillère, une médiatrice. Elle était douée de sagesse. Et là, j'aimerais m'arrêter un instant et juste prendre le temps de faire une prière. J'aimerais dire que Dieu bénisse les chrétiens et les chrétiennes qui se forment et s'engagent dans le but de servir Dieu au travers du domaine du droit, au travers de la vie associative, au travers de la politique, mais aussi au sein des institutions de sécurité, la police, la gendarmerie, les armées. Nous prions pour vous, mes frères et sœurs. Nous prions pour les autorités, pour que vous soyez des ambassadeurs de Jésus-Christ, des ambassadeurs de sa grâce, au cœur même de vos responsabilités dans la société, là où Dieu vous a placés. Amen. Déborah est une prophétesse, Déborah est juge et Déborah est épouse. Et ça, c'est important. Déborah avait un mari, un vis-à-vis dans l'intimité. Et elle avait certainement une vie de famille. Tout en exerçant son ministère quand même et son autorité spirituelle, elle avait cette fonction, elle vivait cette dimension d'être épouse, d'avoir un époux aussi. Et ça, c'est important de le rappeler. Pourquoi ? Parce que tu peux exercer un ministère tout en construisant une vie de famille. Parfois, on a dit, ah ouais, tu vas voir, quand tu vas t'engager avec le Seigneur, tu vas t'en prendre plein la figure. Oh là là, c'est tellement dur pour les familles de servir le Seigneur. Eh, calme-toi. Tu peux le dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu peux exercer un ministère tout en construisant une vie de famille, avoir un mari, une épouse, et même des enfants, ça ne va pas mettre fin à ton appel. Ça ne mettra pas fin à ton appel. Oui, je sais, c'est un défi, à qui le dites-vous ? Mais il y a aussi des solutions, il y a aussi des opportunités, et il y a aussi des ressources. D'ailleurs, hier, on a eu la toute première rencontre des parents solo. Je veux remercier Anita, Mélodie, toutes les personnes qui ont pu permettre que ce ministère naisse, que ce ministère émerge. Nous prions pour les parents, nous prions pour les parents solo, nous prions et croyons que Dieu veut vous bénir. Papa, maman, papa solo, maman solo, nous croyons, nous prions parce que nous savons que Dieu vous appelle aussi à exercer votre ministère. Un fait intéressant maintenant. Qu'est-ce qui fait la singularité de Déborah ? Timothy Keller, qui est pasteur, théologien, auteur, met bien en lumière ce qui fait cette singularité par rapport aux autres juges dans son ouvrage « Des juges pour toi ». Et j'en profite pour vous dire qu'on a un certain nombre d'ouvrages à la librairie sur notre série. On a lu, on s'y est inspiré. Munissez-vous de nourriture solide pour creuser encore le livre des juges. Voilà ce que Timothy Keller dit. « Déborah conseille et conduit Israël. » Elle ressemble bien plus à un dirigeant de peuple attaché à Dieu qu'à un général à la tête d'une armée. Elle est un juge qui exerce son influence au-delà du champ de bataille. Déborah est la seule parmi les juges à ne pas être chef de guerre. Elle n'est pas celle qui délivre Israël en remportant la victoire sur ses adversaires par la puissance de Dieu. En revanche, elle envoya chercher Barak avec l'autorité spirituelle que Dieu lui a donnée, Juges chapitre 4 verset 6, et lui transmet les ordres de l'Éternel. Barak est celui qui conduira les 10 000 hommes dans la victoire. Alors vous ne le saviez peut-être pas, mais le récit de Déborah est souvent au cœur de débats, parfois très vifs, sur la place de la femme dans les responsabilités au sein de l'Église. La femme, le ministère féminin par rapport à l'enseignement public, la prédication de la Bible. Déborah, elle est souvent citée en exemple, tantôt pour appuyer, tantôt pour remettre en question la légitimité du ministère féminin. Alors, puisqu'on médite sur Déborah et sur son histoire, c'est une belle occasion pour moi de pouvoir nous rappeler avec clarté, avec bienveillance, comment dans notre église locale, nous vivons la diversité des ministères et l'exercice des responsabilités. Permettez-moi de reprendre mon souffle. Un petit point culture d'église, l'exercice du ministère homme-femme au sein de l'EPI. Premièrement, j'aimerais dire ceci. Nous encourageons toujours l'église de l'EPI, les membres, ceux qui font de l'église de l'EPI leur maison spirituelle pour avancer au niveau local. Nous les encourageons toujours à respecter les convictions et les pratiques des communautés qui nous accueillent quand nous nous déplaçons dans telle église, dans tel rassemblement. Parce que pour nous, l'unité dans le respect est une priorité. Et notre credo d'église sur ce sujet est inspiré de Rupertus Meldenius. J'ai enfin réussi à le dire. Alors c'était un théologien luthérien du XVIIe siècle et il dit ceci, et franchement nous on essaye d'aspirer, de poursuivre cela. Dans les choses essentielles, le salut en Jésus-Christ, unité. Dans les choses secondaires, la vie d'aujourd'hui, vivre l'Église aujourd'hui avec tous les défis, liberté. En toutes choses, charité, amour. Dans les choses essentielles, unité. Dans les choses secondaires, liberté. Et en toute chose, charité. Alors ici, je m'exprime dans le cadre de mon église locale, dont j'assume la responsabilité de pasteur principal. Et je suis en lien, évidemment, parce que c'est une co-gouvernance, on accompagne ensemble l'église. J'assume la responsabilité pastorale avec une équipe composée de l'équipe pastorale, du conseil spirituel, du conseil d'administration, qui est une belle collégialité d'hommes et de femmes et qu'on appelle le conseil d'église. Voici notre positionnement. À l'EPI, les pasteurs enseignants, je précise pasteurs enseignants, mentionnés dans la liste des ministères donnés à l'église pour sa coordination dans Éphésiens 4. À l'EPI, les pasteurs enseignants, ainsi que les anciens, 1 Timothée 3, sont tous des hommes aujourd'hui. Leur responsabilité, établir de manière publique, structurée et fidèle la doctrine, la théologie biblique, accompagner la transmission de cette doctrine, son application concrète dans la vie des disciples qui choisissent de faire de l'EPI leur communauté locale, et exercer, si nécessaire, une autorité corrective, voire disciplinaire. Nous nous appuyons sur l'instruction que l'apôtre Paul donne à Timothée dans sa première lettre, au chapitre 3, sur le rôle confié aux pasteurs enseignants et anciens, les épiscopos, dans l'Église. 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 et les suivants nous disent ceci. « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, à être un épiscopos, un veillant sûr, un surveillant, un responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. » Il faut que je le relise plusieurs fois, ça. « C'est une belle tâche qu'il désire. » C'est une belle tâche qu'il désire. Pourquoi je le fais? Parce que c'est pas si simple que ça. Donc je m'inspire de la parole pour m'encourager. C'est une belle tâche qu'il désire. Il faut que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner, etc., etc. Et pour nous, ce que Paul écrit à Timothée ici ne justifie pas l'exclusion, bien au contraire. Si on replace dans l'ensemble du Nouveau Testament, dans l'ensemble des enseignements et de l'expérience, par exemple, de l'apôtre Paul, on voit qu'on est encouragé à une gouvernance d'église portée ensemble par des hommes et des femmes dans une dynamique collégiale. Priscille enseigne Apollos, un orateur brillant. Elle est aux côtés de son mari, mais elle est enseignante. Elle prêche, elle édifie un disciple. Phébé, diaconesse, au service et recommandée par Paul pour porter la lettre aux Romains et probablement expliquer cette lettre avec ce contenu théologique aux chrétiens qui sont à Rome. Lydie, première convertie d'Europe selon la tradition, ouvre sa maison à Paul, à l'église, et elle joue un rôle actif de leadership dans la communauté. Loïs et Eunice transmettent la foi à Timothée dès son enfance. Les filles de Philippe prophétisent, prêchent publiquement, annoncent les oracles, les pensées, la parole de Dieu publiquement. J'ouvre une parenthèse et je referme parce que c'est au cœur de beaucoup de débats. Mais l'angle que je vois ici est vraiment ce que nous portons aussi. Junia, selon de nombreux théologiens, elle aurait été reconnue comme apôtre en collégialité avec d'autres apôtres. Donc elle avait des responsabilités importantes au sein de l'Église. Vous savez, ces réalités, elles existent. Je ne peux pas juste les mettre sous le tapis et dire « ça n'existe pas ». On ne veut pas faire ça, on veut être honnête envers la parole de Dieu. Ces femmes, elles ont exercé une influence réelle dans les sphères domestiques, ecclésiales et prophétiques. Et c'est pourquoi nous croyons que la prédication, la formation, la conduite de projet, la présidence des cultes, le service aux tables, la Sainte Cène et tous ces services-là, c'est aussi porté non seulement par des femmes et des hommes, et des hommes et des femmes, sans toutefois que celle-ci exerce la responsabilité, l'autorité, d'établir, de préserver, de faire appliquer l'enseignement doctrinal et disciplinaire confié aux anciens et aux pasteurs enseignants. Je vous laisse respirer. Vous aussi qui êtes en ligne, parce que je sais qu'en ligne, ça va bien faire débat tout ça. Nous choisissons une complémentarité assumée, équilibrée et modérée. Dans nos différentes équipes de leadership aujourd'hui à l'Église, que ce soit l'équipe pastorale, le conseil spirituel, le conseil d'administration ou les staffs et projets, hommes et femmes coopèrent, hommes et femmes collaborent, hommes et femmes se soumettent les uns aux autres et servent ensemble pour bâtir l'Église selon les dons et les appels de chacun. Le Nouveau Testament nous montre que sans cette coopération, les anciens et les pasteurs enseignants s'amputent littéralement eux-mêmes d'une richesse que Dieu donne à l'Église pour le bien et le développement de l'Église. Et on ne veut surtout pas passer à côté de cette richesse de Dieu pour l'Église. Alors non, le ministère féminin n'est pas une mode dictée par la société que nous voulons suivre, la prédication ou autre. On veut pas là être, voilà, c'est pas l'histoire d'une nouvelle génération de chrétiens plus inclusifs. C'est pas la peur d'être exclu par une doxa ou je ne sais quoi, cette diversité des ministères est ancrée dans les Écritures. Et l'histoire de Déborah et Barak montre déjà comment Dieu révèle sa gloire à travers un ministère partagé, à travers la complémentarité des ministères dans un contexte qui était encore plus rigide sur les rôles hommes-femmes justement qu'aujourd'hui. Juges chapitre 4, versets 8 à 9. Barak dit à Déborah, « Si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. » Elle répondit, « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Laissez-moi vous dire ceci, Dieu n'appelle pas seulement Barak, Dieu appelle Barak et Déborah. Longtemps, je pensais que Barak avait juste peur. Dans mon jargon à moi, dans mon quartier, j'aurais dit « c'est un bab tout fragile ». Il fuyait sa responsabilité de leader. Et Dieu avait dû appeler Déborah pour le remplacer et assumer l'autorité de guider le peuple, comme on dit, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Mais en prenant un peu de recul, en élargissant notre étude au-delà du livre des Juges, on observe, avec les 65 autres livres, on observe et on réalise que Déborah n'a pas été choisie par défaut. Elle n'est pas choisie par défaut. Si on prend littéralement, c'est-à-dire on lit littéralement le récit, on risque de bâtir une doctrine sur une simple déduction. Je lis littéralement et j'en déduis quelque chose. Or, ce texte ne nous dit pas ce qui aurait dû se passer. Ce texte raconte ce qui s'est passé. C'est différent. Il ne donne pas forcément une règle à suivre. Ce texte est narratif, il n'est pas prescriptif. Dire que Barak était juste un peureux et que Dieu a dû se rabattre sur une femme, c'est non seulement subjectif, mais c'est aussi erroné si tu veux en faire une doctrine. Barak est allé au charbon pour Dieu. Là où d'autres auraient littéralement fui. Barak, c'est un héros de la foi. Pourquoi ? Qui se lèverait et allait combattre 900 chars de fer dont la spécificité c'est de te déchiqueter sur le champ de bataille. Et nous, on croit qu'il est fragile. Barak n'est pas fragile ici. D'autres auraient fui. Lui, il est là, il est sur le terrain. Je voyais Barak comme un homme qui demande à une femme de l'accompagner. J'ai manqué de voir que ce même homme a placé sa confiance dans les promesses de Dieu qui lui déclare que cette femme, par cette femme, Déborah, que l'armée ennemie sera vaincue. Il a placé sa confiance dans la prophétie de cette femme. Il a pris la route et il a triomphé. Je voyais une prophétesse, Déborah, qui réprimande et juge un homme. J'ai manqué de voir que Déborah est en train de prophétiser sur la manière dont la victoire aura lieu et à qui iront les honneurs. Et cela s'est passé comme Déborah l'avait précisé. Que Dieu nous donne encore de telles précisions sur la manifestation prophétique, sur les dons prophétiques. Elle a été précise. C'est une femme qui est aiguisée dans les choses de Dieu. C'est une prophète fine, aiguisée, percutante. Et ce qu'elle a dit de la part de Dieu, c'est accompli. Barak, il fait preuve d'humilité. Il fait preuve d'humilité en coopérant avec une femme, dans un contexte, je vous l'ai dit, qui n'est pas encourageant dans ce sens-là. Il suit les ordres de Déborah, sachant que même s'il mène l'armée à la victoire, même s'il est le meneur d'hommes de 10 000 hommes, l'honneur reviendra à une autre personne selon la prophétie. Et c'est bien une femme que Dieu choisira pour vaincre Sisera. Vous voyez, Déborah, et c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que c'est un texte narratif, pas prescriptif. Déborah ne cherche pas à dominer ou à asseoir un ministère sur Barak ou quoi. Non, elle ne fait que prophétiser simplement. Et ce qu'elle a prophétisé, s'est manifesté. Elle dira qu'une femme en tirera les honneurs et une autre femme en tirera les honneurs. Et vous savez quoi ? C'est même pas Déborah qui va en tirer les honneurs. C'est Jaël. Jaël, une autre femme
Donc il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de rapport de force. Elle exerce juste son ministère de prophétesse. Et puis, Déborah célébrera cela dans son chant. Juges chapitre 5, verset 24. Que Jaël, la femme de Héber le Kénien, soit bénie parmi les femmes. Qu'elle soit bénie parmi les femmes qui habitent sous les tentes. Verset 27. Au pied de Jaël, Sisera s'est affaissé. Il est tombé, il s'est couché, à ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Le même où il s'est affaissé, il est tombé sans vie. Tout le monde, absolument tout le monde, était là où Dieu l'avait décrété dans sa souveraineté. Tout le monde était là où Dieu l'avait décrété. Tout le monde a pris ses responsabilités et a exercé sa foi dans cette victoire. Barak, les 10 000 soldats ou encore Déborah. C'est exactement comme cela que Dieu conçoit, que Dieu voit et que Dieu bâtit l'Église aujourd'hui. Il n'y a pas plus inefficace, et je précise bien, inefficace, qu'une Église où tous vont au front, une Église où tous vont dans les rues, une Église où tous vont dans des zones sinistrées par la pauvreté et l'incrédulité, et personne n'intercède, personne ne prophétise. Personne ne soigne, personne ne visite, personne ne prend soin de la veuve et de l'orphelin, personne ne calcule la dépense, personne n'équipe pour le combat, personne ne se soucie de l'accueil, personne ne coordonne. Et Timothée Keller dit ceci, Déborah est la seule parmi les juges à ne pas se battre. Ce n'est pas une guerrière. Elle ne dirige pas l'armée. Elle doit faire appel à quelqu'un dont les compétences vont compléter les siennes. Et elle s'en sort à merveille. Dieu n'appelle pas seulement José, Claude, Bernadette, Théo, Joël ou Bruno à exercer leur ministère. Dieu appelle aussi Jacqueline, Dieudonné, Youssef, Kevin, Grishka, Lilith à exercer leur ministère. Amen. Dieu nous appelle tous et toutes pour porter un évangile qui réconcilie pour l'éternité avec Dieu. Ce n'est pas n'importe quel évangile que vous et moi nous avons dans notre cœur et que nous portons dans notre cœur. C'est un évangile qui guérit encore aujourd'hui. C'est un évangile qui redonne de la dignité encore aujourd'hui. C'est un évangile qui apaise, qui procure la paix que l'homme ne peut pas donner. C'est un évangile qui restaure le corps, l'âme et l'esprit. C'est un évangile qui conduit au pardon, qui peut guérir des couples, qui peut guérir des familles, qui peut guérir des quartiers, qui peut guérir une nation, qui peut guérir la division dans l'Église. C'est un évangile qui conduit à la paix face à la mort. Alors que Dieu nous donne ses yeux pour voir ce que lui, il voit. Voir les personnes, voir la soif, voir la recherche de celles et ceux que notre vie nous permet de croiser au fil du temps. Si tu ne sais pas comment répondre à l'appel de Dieu, comme ont répondu Barak et ont répondu Déborah et ses 10 000 autres et plein d'autres encore, on a un outil simple pour t'aider. C'est un petit questionnaire, on en a parlé lors de la célébration missionnaire, un petit questionnaire qui te permet de t'interroger intérieurement, qui permet de t'interroger sur ce qui vibre en toi et donner une tendance. Et si tu veux répondre à ce questionnaire qui peut te donner quelques tendances, je t'invite à aller à l'espace vie d'église à la fin de cette célébration. Il y aura une petite tablette, tu laisses tes coordonnées, ton mail, et tu recevras un mail qui t'enverra vers ce questionnaire. Tu y réponds, tu auras un petit résultat, ça te donnera des outils pour prier, pour méditer la Bible et pour pouvoir, avec Dieu, trouver quel est ton ministère, ton appel, ta sensibilité. Vous savez, quand un homme, une femme, un jeune ou moins jeune entre dans son ministère, dans son appel, c'est peut-être un petit pas pour l'homme, mais c'est un grand pas pour le royaume de Dieu. Un grand pas. Je vais inviter l'équipe à venir. Déborah, Barak, les 10 000 soldats, ont été vainqueurs de leurs ennemis, et c'était un puissant ennemi. Cette victoire, Déborah en a composé un chant pour glorifier Dieu et témoigner au monde. Et vous savez quoi? Ce matin, ou ce soir, ou demain, ou après-demain, Dieu nous invite, nous aussi, à proclamer notre témoignage. Alors, tu te dis, ouais, mais attends, j'ai pas de témoignage, moi. Bah si. Souviens-toi que les auteurs du livre des Juges ont rédigé le livre qu'on a médité ce matin pour annoncer aux générations suivantes qu'ils doivent prendre conscience qu'il existe un cycle spirituel néfaste. La désobéissance, la séparation avec Dieu emmène à des luttes intérieures, des combats, des oppressions, des chaînes, des torpeurs, un certain nombre de choses qui viennent plomber notre bien-être, qui viennent nous griller relationnellement les uns avec les autres. Et à un moment donné, dans tout ce marasme-là, l'évangile arrive par un texto, par un voisin, par un collègue, par un mail, par un enfant, par une circonstance, par une vidéo en ligne, par un TikTok, par une pensée. Et à ce moment-là, il y a une invitation profonde à faire demi-tour et à crier à Dieu. Et j'aimerais simplement qu'on soit encore avec moi juste un instant, s'il vous plaît. De ces luttes intérieures, Dieu veut nous conduire à la repentance, à faire un demi-tour à Dieu. Ce demi-tour à Dieu va emmener sur nous la délivrance de l'Éternel. Cette délivrance va emmener la restauration de l'Éternel. Cette restauration, petit à petit, elle emmène la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Mais voilà le problème. Le problème, c'est que dans le livre des juges, quand le juge meurt, qu'est-ce qui se passe? On retombe dans un cycle. Dans le cas d'Israël, à ce moment-là de l'histoire, avec la victoire de Déborah, il a fallu un juge pour tenir bon. Parce que sinon, c'était encore la chute, c'était encore l'esclavage. Et après 20 ans d'oppression, le ministère de Déborah, le ministère de Barak vont emmener 40 années de paix dans cette région et pour le peuple de Dieu. Mais après, le cycle vicieux va reprendre. Mais toi et moi, nous avons un témoignage. Nous avons plus qu'un juge humain à louer. Nous avons plus qu'un juge humain à adorer. À n'importe quel moment, vous dites amen. Hein, vous avez plus qu'un juge humain pour invoquer le nom du Seigneur et être sauvé. Le juste juge éternel est vivant ce matin. Il est avec nous tous les jours. Ce juste juge éternel est vivant. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera le même demain. Et son nom est Jésus-Christ, les amis. C'est votre témoignage. Le juge parfait, le juge sauveur, le juge serviteur qui a brisé le cycle du péché une bonne fois pour toutes à la croix de Golgotha. Nous nous en sommes rappelés ce matin. C'est lui qui t'accompagne à chaque jour dans tes luttes, dans tes combats, dans tes peurs et dans tes craintes. Et lui n'est pas comme un juge humain. Lui, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. C'est ça notre témoignage ce matin. Alors s'il y a un peuple de Dieu qui veut être renouvelé dans son appel, renouvelé dans son ministère, s'il y a un homme, une femme qui veut donner sa vie à Jésus ce matin, nous allons prier l'Éternel, nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Je vais inviter celles et ceux qui veulent invoquer le nom de l'Éternel et lui offrir un témoignage à se lever dans ce lieu ce matin et proclamer, chanter, prier que l'Éternel est mon Dieu, le juge parfait, le juge sauveur, le juge Seigneur, Jésus-Christ, tu es mon témoignage qui ce matin veut proclamer que Jésus l'a sauvé de tous ses péchés. Lève la main ce matin, toi qui dis oui, Jésus a brisé le cercle du péché sur ma vie. Et lève les mains vers le Seigneur ce matin et prie l'Éternel. Loue l'Éternel. Commence à élever ta voix de dire, Seigneur Jésus, mon témoignage, c'est que tu m'as sauvé du péché, tu m'as libéré du péché, tu as instauré dans ma vie un nouveau royaume, le royaume de justice, le royaume de vérité. Ce royaume, il est en train de grandir en moi, Seigneur. Tu es vivant, tu es avec moi tous les jours. Même quand je tombe, je suis relevé. Même quand je tombe, je suis relevé. Même quand je tombe, je suis relevé. Parce que Jésus est le juge qui relève ce matin. Jésus est le juge qui relève ce matin. Jésus est le juge qui pardonne ce matin. Les juges emmènent souvent des mauvaises nouvelles, mais Jésus t'apportera toujours une bonne nouvelle. Celui qui confesse le Seigneur Jésus et qui croit dans son cœur que Christ l'a ressuscité des morts, alors cet homme est sauvé, cet homme est libéré. Jésus est le juge pour ta vie ce matin. Église, est-ce qu'on peut adorer ce juge ce matin? Est-ce que des voix peuvent s'élever pour l'adorer ce matin? Seigneur, on adore, on adore, on adore, on adore, Seigneur. On adore ta personne ce matin. On adore qui tu es ce matin. Seigneur Jésus, élève-toi. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons nous consacrer. Ce matin, nous voulons confesser. Ce matin, nous voulons dire, Saint-Esprit, nous sommes ton temple. Fais de nous ce que tu as décidé de faire. Purifie ce matin. Viens libérer quelqu'un qui en proie un combat spirituel, qui en proie, Seigneur, un péché. Ce matin, tu es le juge qui libère. Tu es le juge qui libère. Quelqu'un qui ne t'a pas encore donné sa vie, Seigneur. Tu le convaincs de péché. Tu le convaincs de justice, tu le convaincs de jugement afin qu'il soit racheté dans ta grâce, afin qu'il soit un enfant de Dieu régénéré, rempli de ta présence. Les chaînes tombent ce matin, les chaînes tombent ce matin parce que Jésus est le libérateur, Jésus est le grand juge, Jésus est le Seigneur des seigneurs, Jésus est le roi des rois, Jésus est le prêtre parfait, Jésus est le prophète parfait, Jésus est le juge parfait. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Église, proclame-le. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Nous confessons que Jésus, tu es le Tout-Puissant ce matin. Nous invoquons le nom du Seigneur et nous sommes sauvés. Nous invoquons le nom du Seigneur et nous sommes libérés. Nous invoquons le nom du Seigneur et nous sommes pardonnés. Nous invoquons le nom du Seigneur et nous sommes sanctifiés. Nous invoquons le nom du Seigneur et nous sommes consacrés. Nous confessons le nom du Seigneur. Nous confessons notre besoin du juge Jésus et le Saint-Esprit vient. Alors oui, Seigneur, donne-moi un cœur tout entier ce matin. Alléluia. Donne-moi
fais ce que tu veux,
fais ce que tu veux,
fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux.
Rester en prière ce matin. On veut croire que quelqu'un a besoin dans sa vie du juge qui vient briser le cercle vicieux du péché. Quelqu'un qui a peut-être déjà entendu parler de Jésus. Quelqu'un qui découvre Jésus ce matin. Quelqu'un qui s'est éloigné de Jésus, peu importe. Nous croyons, Église de l'Épi, que tant qu'il y a un jour, aujourd'hui, Jésus frappe à la porte du cœur. Et nos célébrations sont une occasion pour quelqu'un de venir en réconciliation avec Dieu. Comme on l'a dit ce matin, le juge parfait, le juge sauveur, le juge qui a donné sa propre vie pour payer le prix de notre péché. Et nous voudrions inviter quelqu'un ou plusieurs personnes qui ce matin veulent confesser
dans la consécration de dire « Jésus, sauve-moi, viens briser le cercle du péché dans ma vie. » Si c'est ton cas ce matin, si tu n'as jamais encore fait cette démarche avec Jésus, tu n'es pas encore disciple de Jésus, j'aimerais et nous aimerions prier pour toi. On ne veut pas te mettre mal à l'aise, on n'aime pas ça ici à l'épi, on veut simplement favoriser un maximum un environnement qui te permette de pouvoir faire une démarche spirituelle d'engagement avec Dieu. C'est pourquoi je vais inviter l'Église, si vous voulez, à respecter ce moment-là. Et peut-être on ferme nos yeux ensemble et il y a quelqu'un dans ce lieu qui a besoin de dire « Je veux confesser que Jésus est le juge qui brise le cercle de ma vie de péché. » Et si c'est ton cas ce matin, je veux simplement pour m'aider à prier pour toi et qu'on puisse prier pour toi et que toi aussi tu fasses cette démarche spirituelle de repentance, de demi-tour, je voudrais juste t'inviter à ce que tu lèves ta main. Là où tu es, lève juste ta main et Dieu te voit, mon frère, ce matin. Toi qui es en train de lever la main. Lève ta main, n'aie pas honte de l'évangile, n'aie pas honte de Jésus. C'est sûr que lever la main, c'est un acte, ça demande quelque chose. C'est pour expliquer à notre corps, en fait, de dire c'est plus toi qui es aux commandes là. C'est mon âme maintenant qui crie à l'Éternel et qui dit « Sauve-moi, Jésus !» Parce que le salut est une question de foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toi qui as levé ta main ce matin. Tu peux répéter cette prière et j'invite l'Église à faire cette prière ensemble pour encourager, fortifier, supportez-vous les uns les autres. Toi qui as levé ta main, on te remercie de ce courage, de cette foi, de dire « Oui, j'ai besoin d'un sauveur. » Alors tu peux répéter avec l'Église, on va répéter cette prière. Dis-le de tout ton cœur, confesse-le. Celui qui confesse le Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il est sauvé, il est libéré. Alors fais cette prière avec nous ce matin. Seigneur Jésus, je confesse de tout mon cœur, de toute mon âme, que tu es Seigneur et que tu es Sauveur. Ma vie t'appartient. Sauve-moi de mes péchés. Viens briser le cercle du péché dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de la présence du Saint-Esprit. Que ma vie soit remplie de ta présence. Oui, je confesse Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Et je veux marcher dans tes pas aujourd'hui, concrètement. Amen. Église, pour les personnes qui ont levé la main et qui ont fait cette prière, est-ce qu'on peut applaudir Jésus ? J'ai encore une dernière prière à vous convier à vivre avec moi par rapport au message qu'on vient de vivre ce matin. Je vous ai parlé du ministère. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où on essaye de nous diviser les uns les autres. On essaye de nous séparer, on essaye de dénaturer la parole de Dieu parfois. Et personne ne peut dire dans ce lieu, je maîtrise toute la connaissance de la parole de Dieu. Personne ne peut dire ça. Et on ne veut pas prétendre être une église qui maîtrise tout de la parole de Dieu. On essaye de vivre l'évangile avec ce qu'on est, avec ce qu'on porte, avec ce qu'on a. On est conscient de nos forces, on est conscient de nos faiblesses. Mais on a tellement besoin d'être une église qui prie. Une église qui sait faire une pause, une église qui sait dire aujourd'hui on va dans cette direction. Seigneur, continue à parler à nos cœurs, continue à édifier. Et on a tellement un besoin criant aujourd'hui de voir la diversité des ministères se développer encore et encore. Tellement de personnes là sont, et on les rencontre en entretien, en échange avec eux, sont parfois perdues, sont parfois savent pas trop, quel est le sens de ma vie, l'appel, le ministère. Nous voulons croire qu'en 2025-2026, Dieu fait lever, entre guillemets, une armée de ministères pour bénir la ville de Strasbourg. Pas juste des hommes, pas juste des femmes, des hommes et des femmes. Pour servir dans la gouvernance de l'Église, pour servir dans le leadership, pour servir dans différents endroits qui permettent aux hommes et aux femmes de pouvoir exprimer ce que Dieu leur a donné, mais aussi que des jeunes, des moins jeunes puissent entendre l'Évangile. C'est un combat spirituel. La chair est faible, la chair ne veut pas entendre parler de l'Évangile. Mais nous voulons être cette Église qui est sensible à l'Esprit de Dieu. Parce que nous croyons que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle du salut pour quiconque croit. Alors je voudrais inviter l'Église juste dans un temps de prière et d'intercession. Pour qu'on continue à cultiver à l'épi cette unité dans les ministères, cette complémentarité, cette intersoumission les uns aux autres, qu'on puisse continuer à discerner les dons et les talents et les appels des uns et des autres, qu'on continue à bâtir de la confiance. C'est tellement facile de briser de la confiance, mais on a tellement besoin de bâtir la confiance. Que Dieu nous aide à accueillir et à libérer tous les dons que Dieu veut qu'il puisse libérer, que tout se fasse dans l'ordre, la bienséance, évidemment, mais que tout se fasse avant tout pour sa gloire à lui. Et c'est pour ça que j'aimerais inviter l'Église en prière. Et je voudrais nous demander ensemble juste de pouvoir prier que Dieu unisse l'Église de l'Épi. Dieu connaît nos défauts, Dieu connaît nos forces. Mais nous, le Conseil d'Église, on a besoin de votre soutien et nous savons que vous avez besoin du soutien de l'Église aussi. Alors permettez-moi cette prière ensemble. Si vous êtes OK avec cette prière à la fin, vous pourrez dire oui, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Seigneur, nous aimons la diversité des ministères à l'Épi. Nous aimons avoir des hommes et des femmes s'exprimer dans les dons et les talents qui sont les leurs. Nous aimons te voir agir dans la paix. Nous aimons te voir agir dans l'unité. Nous aimons te voir agir dans la diversité des ministères. Et nous ne sommes pas arrivés, Seigneur. Nous voulons te demander de nous aider à ne pas nous faire croire qu'on est arrivé, qu'on est figé. Seigneur, on a vraiment besoin de toi. Moi, je te bénis pour toutes les femmes de l'Épi ce matin. En exercice de leadership, dans la prédication, dans le service, on est béni à l'Épi. Et on veut continuer encore à être béni. Je te remercie pour tous les hommes qui s'engagent, tous les hommes qui sont présents, qui exercent aussi dans le leadership, dans des services. On est béni, Seigneur. Et on veut continuer à multiplier le ministère. On veut continuer à multiplier, Seigneur, les opportunités pour les gens, quand ils viennent ici ou quand on est dans la vie, dans les quartiers, dans là où Dieu nous a placés, qu'on puisse être une source de bénédiction et de lumière, Seigneur. On a besoin de toi. Les enjeux sont cruciaux. Le combat spirituel fait rage. Mais nous voulons te demander, continue à équiper ton église de l'Épi, Seigneur Jésus. Continue à faire grâce. Continue à nous apprendre à vivre les uns et les autres dans l'unité, dans la complémentarité. Chacun dans les responsabilités qui sont les siennes. Oui, Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui ont pu être parfois blessés au fur et à mesure des années par différents aspects de l'Église, là où on n'a pas été toujours au rendez-vous. Déborah l'a dit dans sa prière, Seigneur, à un moment donné, il y a des tribus qui ne sont pas venues soutenir Barak. Seigneur, on veut te demander vraiment de nous aider à devenir meilleurs. On ne veut pas se rassembler pour devenir pire, comme dit la parole, on veut se rassembler pour devenir meilleurs, Seigneur Jésus. Alors viens nous accompagner, viens nous faire grâce. Et que ton nom seul, quand on parle de l'église de l'Épi, l'église locale de l'Épi, que ton nom seul soit élevé, respecté, adoré dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous remercie pour votre patience. Que Dieu vous bénisse. On peut le prendre dernière fois, non ?
Seigneur, me voici. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui disent Seigneur, me voici. Alors, Seigneur, me voici. Amen. Ouais. Que Dieu vous bénisse durant cette semaine qui arrive. Que Dieu vous bénisse aussi les internautes. On vous souhaite un bon dimanche. Et vous savez que vous avez l'équipe Écoute et Prière qui est à votre disposition sur ma gauche, à votre droite. Si vous avez été touché par le message, si vous voulez partager quelque chose, vous avez besoin de prière, allez-y, n'hésitez pas. Et bonne semaine à tous.